Je suis en compagnie de M. Théberge, qui est directeur général de la JAG. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi la JAG exactement?
C'est le JAG. En fait, c'est l'organisme LGBT qui couvre la Montérégie au complet. Donc, on fait des rencontres individuelles, des rencontres de groupe, puis du support, du référencement. On aide même des professionnels dans les écoles, infirmiers et tout ça. Donc, toutes ces questions LGBT en Montérégie, ben, c'est nous.
Pourquoi on dit qu'il y a une recrudescence de haine envers les personnes là, LGBT plus?
Ben, le pourquoi, probablement avec les chambres d'écho, la montée de la droite, des discours plus haineux et décomplexés. On le remarque beaucoup à l'intérieur des écoles, sur les réseaux sociaux. Nous, enfin, on n'avait jamais vraiment vécu de violence jusqu'à à peu près l'année passée, même la journée contre l'homophobie et la transphobie. On a reçu des menaces de mort, de dire on devrait vous utiliser pour déminer des champs de mines, des choses aussi intenses que ça. Donc, c'est très présent. Puis, je dirais que c'est dans un courant très, avec qu'est-ce qui se passe au sud des États-Unis.
Puis vous, d'entendre ces commentaires-là, ça vous fait quoi? Et aussi les membres là, qui sont avec le JAG?
Oui, ben c'est très déconcertant. Surtout moi, je suis un peu privilégié. J'ai jamais vraiment vécu de violence. Même quand j'étais au secondaire, dans les années 2000, c'était pas, j'en vivais pas d'homophobie, de transphobie. Puis aujourd'hui, j'en vis à 41 ans. Donc c'est très déconcertant. Puis pour mon personnel ou mes membres, c'est aussi difficile. Surtout, on va dire mon personnel qui font partie de la communauté, mais qui doit aider des gens qui reçoivent de la haine puis de la violence, c'est quand même assez difficile. Peut-être que tu rentres à chaque jour puis t'es confronté à ça dans ton travail.
Vous avez lancé un nouveau programme de certification municipale. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est quoi les principaux, objectifs que vous voulez atteindre avec ça?
Oui, ben en fait, je suis vraiment content qu'on en parle. C'est une super belle certification. C'est pour aider en fait à travailler avec les municipalités, puisqu'il y en a 148 en Montérégie. C'est de trouver un moyen pour que les municipalités, le JAG, on aide la population LGBT à l'intérieur de ces municipalités-là. Il y a dans le fond, en aidant avec certaines mesures, on dit faire des formations pour les employés, pour les élus, avoir des politiques d'inclusion à l'intérieur de la municipalité. Juste un petit effort, puis on a aussi une liste de plusieurs mesures qu'on peut faire. Puis nous, on les demande pas toutes, mais on essaie d'aider les municipalités à voir, ben, qu'est-ce que tu pourrais faire comme prochaine étape? Puis,
C'est quoi exactement le rôle du JAG là, dans la mise en œuvre de la certification?
oui, ben dans le fond, la certification, auparavant, ça venait un peu d'un guide qui s'appelait le Guide pour les municipalités inclusives que le Conseil québécois LGBT avait rédigé. Nous, dans le fond, moi, j'ai écrit le projet de la suite de ça, qui est l'implémentation. Je l'ai écrit au Bureau de lutte contre l'homophobie puis la transphobie. Puis mon projet a été accepté. Donc là, il est financé jusqu'en 2026 pour justement aider ces municipalités-là.
Puis les villes là qui vont bénéficier de ça, c'est quoi leur première réaction? Est-ce que vous avez parlé au maire, au mairesse là de ces villes justement là ou que ça va être dans leur ville?
Oui, ben j'ai des super de belles super de belles réponses en fait. J'ai eu dans le fond dès qu'on a fait le lancement, au moins une bonne vingtaine de villes qu'on a pu rencontrer qui vont rentrer dans le processus. Puis la ville de Tobin Park par exemple, ont tout de suite dit oui. Ils ont déjà passé ça en conseil pour la journée contre l'homophobie et la transphobie. Donc, on a eu des belles réactions. Après ça, nous, notre travail, c'est de continuer d'en parler aux autres villes, parce que c'est pas tout le monde non plus qui a vu nos communications, puis juste de montrer qu'on existe. Donc, présentement, la réaction est bonne.
Comment vous pouvez mesurer l'impact réel de la certification sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes?
Ben, nous, dans la communauté, je vais donner un exemple. Il y a les toilettes universelles à la ville de Saint-Bruno. Ça, c'est vraiment pratique pour la communauté LGBT, on dit pour les personnes trans, mais ça aide aussi un peu en biais avec un couple. Papa, maman, enfant qui peuvent aller dans le même vestiaire au lieu que ce soit maman qui se retrouve dans le vestiaire avec papa dans l'autre, que là, il peut pas te donner un coup de main pour s'occuper de l'enfant puis tout ça. Donc, dans le fond, les mesures qu'on met en place, ça a un impact, oui, pour la communauté, mais ça a aussi un impact pour la génération. Donc, c'est vraiment juste d'avoir, mettre quelques petits principes qui aident le vivre ensemble. Par exemple, juste moi, mon nom, c'est Dominique Théberge, Dominique QE. Ben, je me fais mégenrer tout le temps. Tout le monde m'appelle Madame Dominique. De mettre le il dans ma signature, ben, en communiquant, ben, par courriel et tout ça, ben, ça permet aux gens de savoir, ah, ben, lui, c'est un gars, tu sais. Donc, ça aide, même pour les gens cis, mais ça aide pour les personnes de la communauté trans, mais ça aide aussi pour les gens, on va dire, en immigration, qui connaissent pas nos prénoms, nous, dans le pays qu'ils viennent vivre, mais nous aussi qu'on connaît pas leurs prénoms, c'est masculin ou féminin. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça, qualitatifs. Puis nous, ben, c'est sûr, c'est des choses qu'on entend quand on fait des interventions individuelles. Donc, nous, moins qu'on a de demandes individuelles, plus qu'on voit que les impacts de nos mesures fonctionnent.
Et est-ce que les villes peuvent rencontrer des défis là, pour le dans le processus de certification?
On a fait en sorte que la certification soit le plus facile possible. Donc vraiment, demander le moins de formulaires possible, de reddition de compte et tout ça, pour pas que le travail soit lourd. Parce que le but, dans le fond, c'est juste de commencer à travailler avec la municipalité. Donc vraiment, que pour qu'ils n'acceptent pas cette certification-là, il faut quasiment être de mauvaise foi, parce qu'on a vraiment fait un clé en main, flexible, flexible, flexible. Donc, on va dire pour les politiques, à mettre dans leur politique d'inclusion, ben, nous, on est ouverts qui font pas juste une politique d'inclusion LGBT, mais qui intègrent les principes dans les politiques qu'ils ont déjà en place. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vraiment, puis on ne demande pas beaucoup de choses pour avoir la certification, parce qu'on sait que toutes les municipalités ne partent pas nécessairement de la même place.
Pourquoi vous dites que le projet ne se limite pas, ben peut-être pas vous là, mais sur votre, je suis allé consulter votre site web là. Pourquoi le projet ne se limite-t-il pas seulement aux réalités des personnes justement LGBT+?
Ben, c'est sûr que quand on prend les communautés LGBT, on n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'on a plusieurs réalités qui changent, puis beaucoup d'intersections. Donc, c'est surtout en misant sur les intersections qu'on se dit, ben, si on est capable de ratisser un petit peu plus large, ben, ça va toucher même les personnes de la communauté, ben, des alliés, des hétéros. Ça va aider des familles normales, dans le fond, ou même les gens racisés. C'est pour ça qu'on ratisse un peu plus large, puis qu'on touche à d'autres communautés. Parce qu'à la fin, la seule chose qu'on veut, c'est pouvoir mieux vivre ensemble.
Et comment la certification, dans le fond, peut créer, à contribuer à créer un environnement sécuritaire et inclusif pour les personnes?
Oui, ben, par exemple, on demande aussi aux municipalités d'avoir un conseiller qui est dédié au dossier LGBT. Donc, quand ce conseiller-là, il est attitré, mais ça fait en sorte que n'importe quoi qui touche un dossier comme ça, ben, ça va aller de l'avant. Tu vas avoir quelqu'un qui va pousser le dossier. Par exemple, lorsqu'à Longueuil, il y avait eu des violences qui s'étaient passées, quelqu'un qui se faisait casser ses fenêtres, ben, il y avait un conseiller qui s'occupait de ce dossier-là, qui a fait en sorte d'être plus actif avec la police et tout pour pouvoir faire ça. Après, d'inviter le JAG à venir au conseil de ville, de réaffirmer la position d'allié avec la communauté LGBT pour dire que Longueuil est un endroit sécuritaire pour les gens de la sécurité, pour les gens de la communauté, ce qui donne un message rassurant. Puis là, on parle aussi de la santé mentale dans ce temps-là, parce que quand tu sais que ta ville te protège, mais pour ta santé mentale, c'est toujours meilleur. Donc là, on a fait ça. On aide aussi avec le communiqué de presse et c'est un peu un déroulement de comment, ben, justement la certification aide à protéger la communauté.
On est de retour avec le directeur général du JAG, Dominique Théberge. J'aimerais maintenant qu'on parle de la carte interactive. C'est où qu'on peut la consulter, là, la carte interactive des villes certifiées, justement?
Oui, alors c'est sur notre site internet, lejag.org. Puis dans le fond, on a un onglet MIC plus. Là, on peut aller là directement, puis on voit toute la Montérégie au complet. Puis on peut cliquer sur une région, une MRC de la Montérégie, on va dire Roussillon. Puis après, on peut voir ben qu'est-ce qui se passe dans la ville de Sainte-Catherine.
Puis si par exemple, je donne un exemple, il y a un citoyen qui lui est intéressé par ça, mais là, sa ville ne fait pas partie de tout ça. Comment il peut agir là si sa ville justement est pas certifiée?
Il peut envoyer un courriel à à ses élus. Nous, on a des modèles types sur notre site Internet qui peut l'aider à dire, ben, écoutez, cette certification-là existe. Moi, je fais partie de la communauté. J'aimerais ça qu'on ait ça pour me sentir plus en sécurité. Donc, juste contacter les élus. Ils sont là pour ça.
J'imagine que la carte est mise à jour là en temps réel.
Oui, tout à fait. Nous, dès qu'on a une bonne nouvelle d'une municipalité qui se joint à nous, ben, nous, ça fait plaisir de mettre à jour notre site Internet puis de pouvoir même faire une petite publicité avec eux ou juste de les annoncer sur notre page Facebook parce que des bonnes mesures, ben, c'est toujours une bonne chose de faire un beau message positif pour tout le monde.
Vous avez parlé tantôt que les villes avaient accueilli ce projet-là à bras ouverts. Est-ce qu'il y a des villes cependant qui ont hésité un peu, qui ont reculé devant votre projet? Ils n'étaient pas sûrs de votre projet initial?
Oui, mais en fait, pas directement. On a eu des refus, mais très indirectement. C'est un courriel très froid en disant que ben nous, on est inclusif, on n'a pas besoin de vous. C'est toujours un peu drôle. C'est comme quand t'as juste des hommes qui prennent une décision pour le droit des femmes. Ça ressemble un peu à ça. Une ville qui se trouve inclusive, mais qui peut pas travailler avec le seul organisme LGBT de la Montérégie. Ça ressemble un peu à ça. Sinon, on n'a pas eu de non, c'est vraiment pas bon ou quoi que ce soit. Juste des gens peut-être qui n'ont pas assez d'informations pour prendre la décision. Donc, nous, c'est sûr, on va garder nos canaux ouverts, puis on va être prêts à s'asseoir ensemble, puis pouvoir en parler, puis voir, mais pourquoi finalement, tu sais, vous pensez que vous êtes inclusif, puis que vous pouvez travailler sans l'organisme local, que vous pouvez référer vos citoyens à.
Vous en avez parlé tantôt brièvement, là, j'aimerais revenir là-dessus sur le projet Horizon 2026. Initialement, c'est quoi les objectifs là, du financement final, initial plutôt?
Oui, ben c'est 50% des municipalités qu'on aimerait ça certifier. Là, on réalise un peu que la machine municipale est une machine qui peut être vraiment lente parce que ben, les rencontres du conseil se font une fois par mois, les tables de travail et tout ça, les questionnements. Donc, ça s'étale sur plusieurs mois. Puis, ça tombe aussi qu'on a une élection en plein milieu de gros travail de 2 ans. Ce qui met sur pause beaucoup de choses, mais qui peut aussi changer des gardes dans certaines municipalités. Donc, c'est sûr qu'on va peut-être regarder pour étendre cet horizon-là.
J'aimerais qu'on parle de l'activité que le JAG organise là, qui va se tenir le 30 mai prochain. C'est quoi exactement cette activité-là?
C'est le haut en couleur. En fait, c'est un événement qu'on a fait quasiment toutes les années, sauf durant la pandémie, qui est une grosse célébration, mais ça nous permet aussi de faire une remise de prix pour les gens dans la Montérégie qui se sont distingués, qui sont là pour l'inclusion. On va donner encore des prix cette année. C'est un gros party de, ben, vive l'inclusion, la diversité à travers la Montérégie entre nous autres et nos membres et les acteurs alliés.
Le 17 mai, est-ce que vous organisez quelque chose de spécial là, pour tous les membres là, qui sont avec vous?
Nous, on va prendre nos membres, puis enfin, on va aller marcher le 17 mai à Montréal avec Émergence.
Puis est-ce que vous pensez changer les choses un peu? C'est quoi la réaction un peu des gens qui vont vous voir là? Qu'est-ce que vous attendez de ces personnes-là?
Pour le 17 mai?
Oui.
Ben, le 17 mai, c'est toujours de sensibiliser les gens puis leur montrer, ben, écoutez, l'homophobie, la transphobie, ça existe encore. Donc, toujours un à la fois, une personne à la fois, puisque des fois, ben, quand on passe par les médias, ben, on réussit à toucher plus de gens à la fois. Donc, oui, c'est juste de sensibiliser.
Et je termine là-dessus parce que je sais que vous en avez parlé tantôt des toilettes mixtes, parce que j'en vois de plus en plus dans les restaurants, notamment je crois que c'est la cage au sport à Brossard, là, pour nommer que celle-là, là. Mais vous, quand vous voyez de plus en plus de restaurants qui rénovent leurs toilettes en mettant des toilettes mixtes, c'est quoi votre première réaction là-dessus?
Ah ben moi j'adore ça. Les toilettes universelles, ben en fait, on le voit même dans les écoles, l'endroit où qui existe le plus d'intimidation, c'est dans les toilettes. Donc en créant des toilettes universelles, au lieu d'avoir des espèces de petites, des petites des petites toilettes avec un gros truc pour mettre qu'on peut voir par en dessous ou on peut voir par en haut, puis une grosse claque à côté de ta porte, puis que tout le monde peut te regarder faire tes affaires là-dedans. C'est des portes pleines, puis c'est une cabine que tu peux rentrer tout seul dedans, l'endroit. Donc, c'est un peu comme quand on va dans un festival de bière, puis que là, il y a plein de toilettes chimiques qui sont alignées ensemble. Mais c'est ça, des toilettes universelles. C'est, tout le monde peut utiliser les cabines comme ils veulent, peu importe leur sexe. Puis après, on va tous laver les mains à la même place. Donc, c'est sûr que quand les restaurants, mais ils engagent le pas là-dedans, mais ils engagent sur des milieux plus sécuritaires, parce que aussi, tu peux mettre des caméras dans ces lieux-là, parce que les endroits confidentiels, ça se passe dans les cabinets, mais dans des endroits où il y a tout le monde, ben là, tu peux faire une surveillance plus accrue, puis t'assurer qu'il n'y a pas justement d'intimidation ou n'importe quel autre acte violent qui pourrait se passer dans cet endroit-là.
Je termine parce que ça fait pas tellement longtemps que je suis sorti de l'école et j'en ai parlé brièvement à mon cégep là dans mon cours de littérature, l'utilisation du YEL dans les textes. Vous, c'est quoi un peu votre vision de ça? Comment vous voyez les choses pour les prochaines années, là, les prochaines générations qui sont à l'école?
C'est drôle, moi, quand j'étais au cégep, je me souviens d'avoir lu une nouvelle que dans les pays scandinaves, il y avait créé un pronom neutre. Je pense que c'est là, à peu près 15 ou 20 ans de ça, puis je comprenais pas. Puis c'est arrivé beaucoup plus tard au Québec. Puis aujourd'hui, on comprend parce que dans le fond, c'est plus pour avoir un pronom pour une réalité différente. Je dis pas que c'est quelque chose que on peut utiliser à tout le monde ou quoi que ce soit, mais tu veux avoir un discours avec des personnes ciblées, donc dont c'est leur réalité, mais c'est un pronom qui est parfait. C'est un néologisme, comme on en crée plein là, comme clavardage ou courriel, c'est des mots qui s'inventent. Dans une langue qui est vivante, ben les mots y évoluent. Puis, dans le fond, dans la réalité dans laquelle on vit, ben on suit cette évolution-là. Nous, tu sais, dans le fond, on a pu avoir le mariage LGBT, le mariage gay en 2003, mais ça veut dire qu'à partir de 2003, on a commencé à exister, puis on a commencé à avoir des données sur nous autres. Et de pouvoir mieux comprendre nos réalités. C'est un peu là qui est arrivé où on a pu comprendre toute la réalité du genre et que c'était beaucoup plus c'était moins binaire, justement. C'était moins blanc ou noir, mais qu'il y avait plus comme un continuum.
Monsieur Théberge, ça fait déjà le tour de mes questions. Je vous rappelle, vous êtes directeur général du JAG, qui est un organisme, oui, communautaire de sensibilisation, de soutien et de référence qui dessert la population de la Montérégie-Ouest, Centre et Est. Donc, je vous remercie d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous et ben, je vous souhaite une excellente journée pour le 17 mai là, à Montréal.
Merci beaucoup. Passez une très belle journée à vous aussi.
Merci beaucoup.
Au revoir.